Très bien, donc je vais maintenant introduire le deuxième et dernier séminaire de la journée qui va être présenté par Christian Barillot. Christian Barillot dirige une unité mixte de recherche INSERM qui s'appelle Visage, ainsi que la plateforme d'imagerie Neurinfo de l'Université de Rennes. Il est titulaire d'un doctorat et d'une habilitation de l'Université de Rennes et il a également travaillé à la Mayo Clinic aux États-Unis. De 2007 à 2010, il a été délégué scientifique adjoint pour l'ARS, pour l'évaluation des unités de recherche dans le secteur des sciences de la vie, de la santé et de l'environnement. Et il est membre du conseil scientifique de l'Institut des sciences de l'information et de leurs interactions du CNRS. Il préside en 2014 le comité de programme de la conférence MICAI qui va se tenir au MIT en septembre. Ses contributions scientifiques s'inscrivent dans le domaine du traitement informatique des images multidimensionnel pour la médecine et il s'intéresse tout particulièrement à l'analyse computationnelle des images du cerveau. Il a publié de nombreux articles, a participé au dépôt de nombreux brevets et logiciels en visualisation, segmentation et recalage d'images et plus récemment dans le domaine de l'IRM, de perfusion et de diffusion.
Merci Nicolas pour cette belle présentation. Donc je vais vous parler aujourd'hui en fait des biomarqueurs d'imagerie et comment est-ce qu'on va pouvoir les utiliser en fait, dans les pathologies neurologiques. Donc, tout d'abord, quelques définitions simples. Hein. Les biomarqueurs, en fait, en règle générale, sont des mesures servant d'indicateurs pour le processus, pour montrer les processus biologiques normaux, anormaux, ou leurs évolutions. Ils servent donc à caractériser la réponse pharmacologique à un traitement. Alors, on peut distinguer trois grandes familles de biomarqueurs. Vous en connaissez très bien au moins deux, hein. Ce sont les paramètres biochimiques ou histologiques issus des prélèvements tissulaires, c'est ce qu'on fait à partir d'une biopsie. Ce sont les paramètres biochimiques cellulaires sur prélèvement de liquide, c'est ce qu'on fait avec une analyse de sang. Et puis enfin, il y a les paramètres morphologiques, fonctionnels, cellulaires ou moléculaires que l'on va détecter par l'imagerie. Et là, on a eu beaucoup d'illustrations en fait, dans les deux exposés précédents. Et donc moi, je vais principalement donc, parler de cette troisième catégorie. Et à travers cette catégorie, en fait, cette présence de biomarqueurs doit être reliée à l'objectif en fait, de pouvoir détecter la pathologie, de pouvoir mieux la prédire, ou tout au moins mieux prédire le degré de risque ou d'évolution de la maladie, de pouvoir mieux classifier la gravité et l'étendue de cette pathologie et d'évaluer la réponse au traitement. Et donc, à cette fin, les biomarqueurs doivent être à la fois quantitatifs, doivent être précis, reproductibles et stable temporellement, c'est ce qu'on va essayer de faire en fait, dans l'élaboration en fait, de ces biomarqueurs et surtout dans leur évaluation par rapport à des applications cliniques. Et donc pour ce faire, l'émergence de ces biomarqueurs d'imagerie en fait, nécessite l'intégration étroite entre le producteur de l'image, le capteur d'imagerie, donc le labo d'imagerie, jusqu'au lit du patient. Le capteur d'imagerie, eh bien, on va pouvoir l'optimiser à travers l'usage ou le développement de nouvelles séquences quantitatives. C'est ce qu'on va faire sur l'IRM. À partir de ces séquences, on va pouvoir utiliser des agents de contraste, soit à l'IRM, soit à la tomographie par émission de positons, pour étudier les échelles microscopiques, par exemple à l'échelle cellulaire ou moléculaire. On va pouvoir regarder l'échelle mésoscopique à travers l'analyse des structures et des fonctions. Et puis, on va aussi pouvoir réaliser des échelles de population à travers l'établissement en fait, de masses de données, de cohortes, à partir desquelles on va pouvoir faire des études statistiques en utilisant des outils d'apprentissage statistique pour pouvoir, derrière, déterminer en fait, des biomarqueurs avec leur variabilité dans la population, de la même manière que vous avez des variabilités lorsque vous faites un test sanguin. Et puis, enfin, on va vouloir aligner ce que l'on détecte chez le patient par rapport à cette normalité dans la population. Donc je vais principalement m'axer en fait sur les quatre premiers aspects en fait de cette chaîne et je vais illustrer ça dans deux grands domaines. Un premier domaine autour de l'élaboration et l'usage des biomarqueurs d'imagerie dans le domaine de la sclérose en plaques. Donc c'est principalement des marqueurs d'imagerie sur le volet morphologique, cellulaire et moléculaire qu'on va mettre en œuvre. Alors, si on regarde un petit peu l'évolution naturelle de la sclérose en plaques sur le plan épidémiologique, en fait, on peut constater sur le plan épidémiologique, surtout si on compare par rapport à un score clinique qui est principalement basé en fait, sur un déficit moteur, que cette maladie en fait, est une maladie principalement en deux phases, avec une phase initiale qui est extrêmement variable dans son évolution, puisqu'un patient peut mettre quelques années à rejoindre ce stade médian, alors qu'il peut aussi mettre 20 à 25 ans. Par contre, une fois qu'on a atteint ce stade médian, eh bien, la maladie progresse de manière relativement homogène, ça veut dire qu'on est plutôt dans une phase dégénérative. Bon, il est couramment admis aujourd'hui que cette phase initiale, c'est plutôt une phase inflammatoire. D'où l'idée, bien sûr, en fait, de pouvoir axer en fait, le regard que l'on va avoir en fait, sur les événements les plus précoces. Et ainsi, pouvoir réaliser un diagnostic précoce, pouvoir adapter les thérapies plus spécifiques, tout au moins les adapter en fonction du devenir qu'on peut envisager pour le patient, pouvoir mieux prédire la progression de la maladie et pouvoir mieux évaluer les nouveaux protocoles thérapeutiques et notamment les nouveaux médicaments qui arrivent en fait sur la modification de l'évolution de la maladie. Alors, une première étape dans la recherche de ces biomarqueurs, en fait, c'est de pouvoir segmenter en fait, les lésions, comme a montré Nicolas dans sa présentation tout à l'heure. Alors, pour faire ça, on dispose en fait, à la fois spatialement et temporellement en fait, d'une quantité d'informations, d'une quantité d'images assez importante. Et donc, à travers cette quantité d'images, on va vouloir extraire en fait, les lésions qui vont apparaître comme étant en fait, des événements anormaux, improbables en fait, dans les images. Ce qui fait qu'on va plutôt utiliser naturellement en fait, des estimateurs qui vont aller pouvoir modéliser en fait, l'intensité ou l'apparence des tissus et des tissus qui sont d'apparence normale pour l'œil du radiologue. Et simplement, les lésions vont être considérées comme étant des données aberrantes en fait, par rapport à ces apparences normales. Ce qui fait qu'on va identifier ces apparences irrégulières en utilisant non pas des estimateurs type maximum de vraisemblance, par exemple, mais plutôt des estimateurs robustes type maximum de vraisemblance tamisé. Qui va permettre en fait, d'extraire ce qui est pathologie de ce qui est tissu normal. Et à travers l'identification de ces apparences irrégulières, une simple expertise neuroradiologique et un modèle statistique sur cette expertise neuroradiologique nous permet de définir ce qui est lésion de ce qui va plutôt être artefact d'imagerie. Alors, si on applique ça sur les images, bon, je ne l'ai pas dit, mais la première étape, c'est déjà faire un pré-traitement, puisqu'on a pu démontrer, par exemple, que la qualité d'image est essentielle dans l'efficacité de la détection du biomarqueur. Ensuite, si on applique un estimateur de maximum de vraisemblance standard, on voit qu'on a énormément de faux négatifs, par exemple, parce qu'on n'a pas pris en compte la présence des lésions dans le modèle des tissus. Si on applique le maximum de vraisemblance tamisé, eh bien là, à ce moment-là, on a accès à l'ensemble des contours des lésions et on peut calculer ce qu'on appelle une charge lésionnelle qui constitue déjà un premier biomarqueur. Alors, le problème, c'est que cette charge lésionnelle est extrêmement sensible en fait, sur la maladie. On va avoir des évolutions extrêmement rapides en fait, sur cette maladie. Par contre, c'est assez peu spécifique en fait, de la nature de l'évolution et du stade de la maladie. D'où le besoin en fait, de changer un petit peu de paradigme et de pouvoir aller regarder, toujours dans les premiers instants, les patients qui souffrent de syndrome cliniquement isolé pour essayer d'aller regarder en fait, le volet inflammatoire de la maladie dans ces premiers instants. Alors, en neuropathologie, l'inflammation est associée en fait, aux macrophages. Ces macrophages périvasculaires en fait, qui vont migrer en fait, du vaisseau, du sang, vers les tissus neurologiques à travers en fait, la gaine de myéline, la gaine endothéliale. Et cette invasion en fait, des macrophages périvasculaires va anticiper la rupture de la barrière hématocéphalique, puisque la barrière hématocéphalique en fait, va empêcher en fait, aux cellules plus grosses en fait, de migrer en fait, dans les tissus neuronaux. Alors, l'étude de ces dépôts précoces de macrophages doit nous permettre d'avoir une meilleure compréhension en fait, de toute la phase inflammatoire de la maladie. Et comment est-ce que ça se traduit en IRM? Ça se traduit par l'usage d'agents de contraste. Alors, traditionnellement, l'inflammation est regardée par le gadolinium, mais le gadolinium est spécialement relié en fait, à la rupture de la barrière hématoencéphalique. Si on veut aller regarder l'invasion des macrophages qui anticipent cette rupture, eh bien, il faut aller regarder les agents de contraste faits de nanoparticules de fer, comme les agents de type USPIO. D'où l'idée d'avoir réalisé en fait, un projet national qui était financé par l'association de recherche en sclérose en plaques, qui a regardé, en fait, qui continue à suivre en fait, une cohorte de 35 patients avant leur entrée dans la maladie, et de voir comment, en fait, de suivre autour du temps ces patients à travers des IRM conventionnels, ne serait-ce que pour faire le diagnostic, regarder les charges lésionnelles, regarder les atrophies, comme a montré Nicolas tout à l'heure, mais également regarder toute la charge inflammatoire, l'imagerie de l'inflammation à travers les deux agents de contraste dont j'ai parlé tout à l'heure, et puis enfin, d'avoir affaire à de l'imagerie quantitative pour essayer de mieux caractériser tout ce qui est de relève de la microstructure neuronale, notamment ce qui va entourer les axones, la gaine de myéline, et ce qui va être relié à la diffusion intra- et extra-axonale. Alors cette IRM quantitative, elle peut être extrêmement utile en sclérose en plaques, mais elle est également utile dans un nombre de pathologies, et Stéphane en a parlé juste avant à travers le coefficient de relaxation R2, par exemple, ou R2 étoile. Eh bien, l'IRM de relaxométrie va fournir une empreinte digitale en fait, de la microstructure cérébrale. En gros, qu'est-ce qu'on va regarder? On va aller regarder, par exemple, le coefficient en fait, dit T1 de magnétisation longitudinale à l'IRM. On va regarder le coefficient qui va être relié à la magnétisation transverse, dit coefficient T2. Et puis, par un système d'optimisation en fait, itéré et combiné, on va pouvoir mesurer à la fois un temps de relaxation T1, un temps de relaxation T2, la densité de protons, et on va même intégrer, par exemple, les inhomogénéités des champs de radiofréquence à l'IRM qui vont aller produire des artefacts de reconstruction, ce qui va nous biaiser complètement l'estimation de ces paramètres quantitatifs. Et puis, par cette estimation conjointe, on va pouvoir réaliser cette opération sur une population, ainsi apprendre sur cette population ces paramètres de microstructure, à la fois en moyenne et en variance, voir comment ça varie au sein de la population. À travers ça, on peut construire des ABAC qui vont constituer une vraie empreinte digitale pour un ensemble de structures cérébrales avec des valeurs nominales. Et ces valeurs nominales, on va pouvoir les comparer ensuite avec ce qu'on va mesurer chez des patients. Donc c'est ce qu'on réalise, par exemple, c'est ce qu'on peut réaliser en sclérose en plaques. Ici, on a un exemple où on compare un patient par rapport aux ABAC qu'on a pu reconstruire sur une population d'apprentissage et mettre en évidence en fait, des défauts de la microstructure qui est fortement corrélée à la présence de lésions, mais qui va aussi au-delà de la présence des lésions et qui va pouvoir caractériser ce qu'on appelle les tissus d'apparence normaux, qu'on ne voit pas à l'IRM standard, mais qu'on peut commencer à caractériser avec ce type de séquence quantitative à l'IRM. Donc ça, c'est une première étape dans l'analyse en fait, des marqueurs de sclérose en plaques. Une deuxième étape, c'est aussi de faire l'analyse longitudinale de l'inflammation. Alors cette analyse longitudinale va exploiter les lésions qui ont marqué, en fait, qui sont spécifiques de l'inflammation, donc qui marquent à l'USPO et même au gadolinium. Alors pour ça, on va essayer de découvrir en fait, des classes de lésions qui vont être un bon prédicteur de l'évolution des patients dans la maladie. Alors pour ce faire, on va regarder les deux premiers instants. Pourquoi que deux instants? C'est parce qu'on va prendre les instants où les patients n'ont pas eu de traitement modificateur, par exemple pas de corticoïdes qui vont agir sur l'inflammation. Et on va essayer de sélectionner donc, les motifs spatio-temporels de ces deux premiers instants, des lésions qui sont des lésions spécifiques de l'inflammation. Ensuite, on va représenter ces lésions sous forme de tensor volumique, simplement par une analyse en composantes principales des masques des lésions qui ont été segmentées. Et puis, en fait, ces lésions vont pouvoir être représentées à travers à la fois leurs valeurs propres, mais également avec des indices, par exemple, d'annularité, puisqu'on peut constater que souvent, ces lésions inflammatoires, en fait, ont des formes un petit peu annulaires. Donc, on va constituer de cette manière-là un vecteur, en fait, caractérisant l'ensemble, chacune des lésions, et ce vecteur est donc formé, en fait, de ces valeurs propres et de ces coefficients annulaires. Ensuite, on va pouvoir renseigner avec ces caractéristiques des couches de classifieurs. Et ces couches de classifieurs, on va en avoir deux. Une première couche, en fait, qui est basée lésion, dans laquelle, en fait, ben, ces descripteurs grand F, en fait, ou petit f de la forme des lésions, eh bien, on va en estimer un nombre optimal de groupes et regarder comment ces différents groupes de lésions vont pouvoir, en fait, être renseignés chez les différents patients de notre étude. Et ensuite, de regarder comment, en fonction des types de lésions auxquelles ces patients s'abonnent, eh bien, on va pouvoir prédéterminer, prédire un petit peu leur risque d'évolution. Alors pour faire ça, on utilise un classifieur, un système de classification qui commence à être relativement courant aujourd'hui, qui est la classification spectrale. Donc rapidement, une classification spectrale non supervisée eh bien, fonctionne en utilisant une matrice d'affinité qui est prise en utilisant donc, le descripteur de lésions que j'ai décrit tout à l'heure. Puis cette matrice d'affinité, eh bien, en regardant en fait, les plus grands vecteurs propres de cette matrice d'affinité, on peut avoir en fait, une classification qui va être beaucoup plus robuste en fait à la non-convexité des données que l'on observe. On peut le voir sur l'exemple ici de données synthétiques, par exemple, où on peut, à travers ce type de classification spectrale, distinguer en fait des formes qui sont imbriquées, alors que des classifications basées simplement sur des distances euclidiennes ne permettraient pas de réaliser ce travail-là. Alors la difficulté, en fait, ici, c'est plutôt de bien définir le jeu de caractéristiques, donc le vecteur F qui caractérise nos lésions, afin de pouvoir avoir une matrice d'affinité relativement stable pour pouvoir faire notre classification et qu'elle soit robuste, en fait, dans les expérimentations. Et donc cette première couche de classification va nous fournir, en fait, dans le cas présent, trois grands groupes de lésions. Or, ces grands groupes de lésions ne sont pas censés représenter un groupe de lésions identifiable nécessairement à l'œil de radiologue, puisque la finalité en fait, de ce groupe de lésions, que l'on apprend un petit peu numériquement dans les données, en faisant un peu une fouille dans les données, c'est plutôt leur devenir par rapport à leur caractère prédictif par rapport à l'évolution des patients. Donc, on utilise simplement ces groupes de lésions. Et puis, dans la phase d'après, on regarde comment chaque patient s'abonne, donc la cardinalité, en gros, hein, de chacune de ces lésions chez ses patients. Et si on refait passer en fait, notre classifieur spectral, eh bien, on peut voir qu'on a une très bonne corrélation entre ce groupe de patients et puis leur devenir après 24 mois. Donc en gros, on a observé la maladie à 0 et 3 mois et on a été capable de prédire leur évolution après 2 ans dans la maladie. Et ainsi, on a pu déterminer, ben, par exemple, trois grands groupes de patients. Le groupe en orange ici qui va avoir une évolution rapide, le groupe jaune qui va avoir une évolution plutôt médiane et le groupe bleu qui va être relativement stable dans les années, malgré le fait qu'il soit confirmé sclérose en plaques. Et donc, ce qu'on peut conclure de cette étude, en fait, c'est que la caractérisation précoce des motifs de lésions inflammatoires peut permettre de déterminer si un patient présente un risque accru d'évolution rapide dans la maladie et donc d'adapter dès les premiers instants en fait, le traitement par rapport à ce risque inflammatoire sévère. Ça, c'est le premier exemple que je voulais montrer. Le deuxième exemple, maintenant, c'est plutôt sur le métabolisme cérébral à travers l'usage d'une séquence relativement inédite, sans être totalement nouvelle, qui est basée sur le marquage magnétique du sang artériel. On appelle ça l'arterial speed labeling en anglais. Et donc là, on va plutôt caractériser les paramètres fonctionnels détectés par l'imagerie. Alors, qu'est-ce que l'arterial speed labeling? Eh bien, d'abord, c'est une méthode de perfusion endogène par IRM. Elle est non-invasive, ça veut dire qu'elle ne nécessite aucune injection ni d'irradiation. Elle est répétable, elle est reproductible et en plus, elle est quantitative. C'est-à-dire qu'on peut accéder directement à un chiffre qui évalue la quantité de débit sanguin cérébral local. A contrario, elle est avec un très très faible rapport signal à bruit, ce qui fait qu'on va avoir des difficultés justement pour pouvoir estimer en fait, la valeur en chaque point. Alors, on a pu démontrer, en fait, d'autres études ont démontré une très bonne concordance avec le métabolisme du glucose dans le cerveau qui est donné par le FDG PET, notamment au niveau de la maladie d'Alzheimer ou des démences. Et puis, on peut aussi montrer, et c'est ce que je vais illustrer principalement, d'autres applications, notamment dans le domaine des tumeurs cérébrales, de la démence et des dépressions en psychiatrie. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La première étape, en fait, c'est de marquer les protons du sang au niveau du cou avec l'IRM, avec un champ de radiofréquence. Ensuite, on laisse un délai de transit pour que ces protons du sang marqués en fait, aillent perfuser dans le cerveau. Puis ensuite, après un certain temps, on va acquérir la coupe ou les différentes coupes, finalement c'est du 3D, dans le cerveau. Une fois qu'on a fait ça, on refait en fait, l'acquisition au même endroit, mais sans marquage des protons du sang, ce qui fait qu'on va avoir une image contrôle. Il suffit ensuite de soustraire l'image de base contrôle avec l'image après marquage, on a une différence qui va être donc proportionnelle au débit sanguin cérébral local. Simplement, si on fait ça qu'une seule fois, on a une image qui est absolument ininterprétable. Donc il faut répéter. Il faut répéter de 20 à 60 fois. Une fois qu'on a répété ces opérations, on va simplement faire une moyenne et on va avoir une image pondérée en perfusion. Alors ensuite, de l'image pondérée en perfusion, il faut faire de la quantification. Donc pour ça, on va aller approximer en fait, la mesure que l'on fait en chaque point de l'image par rapport à un modèle de perfusion qui est donné, par exemple, par le modèle de Buxton. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? On marque les spins des protons. Ensuite, pendant un certain temps, on n'a pas de signal dans la petite boîte d'intérêt ici. Après un certain temps de transit artériel, en fait, on commence à perfuser dans le sang. On laisse le temps de marquage pour perfuser partout dans le parenchyme cérébral. Et après ce temps de marquage, on laisse un délai afin de pouvoir regarder la perfusion en fait, dans la phase descendante de notre courbe de perfusion. Puis on fait ça pour chaque point et on essaye d'approximer en fait, ce que l'on observe, extrêmement bruité quand même, par rapport en fait, à ce modèle de perfusion pour estimer en fait, notre fonction F ici. Ensuite, il faut pouvoir déterminer en fait, si cette perfusion que l'on a estimée chez un individu, eh bien, comment est-ce qu'on peut en faire un biomarqueur. Pour ça, il faut regarder en fait, la quantification de ce patient par rapport à la normalité, par exemple. Donc, quelques généralités sur l'analyse des données fonctionnelles cérébrales. En fait, on peut avoir deux types d'analyses. L'analyse de groupe qui va, par exemple, au sein d'un groupe, on va pouvoir identifier des motifs communs en fait, qui vont, au sein d'une population homogène, ces motifs communs vont pouvoir nous caractériser comment la fonction cérébrale ou le métabolisme cérébral se comporte pour une opération particulière ou une pathologie particulière. Ensuite, on peut faire une analyse de comparaison entre deux groupes. Cette comparaison entre deux groupes va pouvoir mettre en évidence en fait, des différences entre les deux populations. Donc, en neuroimagerie, cette analyse de groupe, c'est... donne la tendance générale d'une fonction cérébrale observée sur des cerveaux sains ou sur des cerveaux pathologiques. C'est la forme d'analyse statistique qui est la plus couramment répandue en fait en imagerie fonctionnelle cérébrale parce qu'on a un fort pouvoir statistique. Par contre, ça ne permet pas d'identification de marqueurs individuels. Alors, il existe une deuxième analyse, c'est plutôt l'analyse individuelle ou orientée patient, qui va aller montrer des motifs fonctionnels cérébraux chez un sujet unique. Donc, par exemple, eh bien, sur un sujet particulier, on va y regarder le débit sanguin cérébral, par exemple. Et donc, voilà, on a une quantification, mais avec un poids statistique relativement faible. Ensuite, on peut faire cette analyse orientée patient pour mettre en évidence des déviations entre ce qu'on observe, ce qu'on mesure chez ce patient, et puis un groupe de référence ou un groupe contrôle, par exemple, des sujets sains. Et donc, en neuroimagerie, cette analyse orientée patient va donner les tendances spécifiques à un individu. Elle est réalisée sur un sujet seul ou en comparaison avec un groupe de référence, et ça permet l'identification de marqueurs individuels. Et en plus, l'arterial spin labeling va fournir des informations quantitatives, ce que ne permettrait pas de faire par exemple l'IRMF en mode bold, où on peut déduire des quantités, mais en soi, on n'a pas d'informations quantitatives sur le couplage neurovasculaire, par exemple. Alors, dans le contexte de l'ASL, en fait, ces deux approches peuvent être utilisées pour pouvoir en fait, détecter des biomarqueurs, soit à l'échelle du groupe, soit à l'échelle individuelle. Donc, pour faire ça, on va constituer un groupe contrôle. Sur ce groupe contrôle, on va constituer en fait, un modèle statistique, moyenne, variance. Puis, une fois qu'on va faire le même type d'examen sur un sujet, on va aller comparer et détecter les différences entre ce sujet et ce groupe contrôle. Alors en ASL, on est obligé en plus, quand on va aller détecter ces différences, de pouvoir regarder en fait deux niveaux de variance, puisqu'on a un rapport signal à bruit extrêmement faible. On va regarder d'abord les variances entre les différents individus, ça c'est classique. Par contre, on va être obligé aussi d'aller regarder les variances au sein même d'un individu entre les 20 à 60 répétitions. C'est pour ça qu'on a affaire en fait à un modèle de comparaison à deux variances. Et puis on procède exactement de la même manière si on veut comparer deux populations. Alors maintenant, une fois qu'on a cet outil statistique pour comparer les individus au groupe contrôle ou les deux populations entre elles, eh bien, il faut être capable, surtout en prenant en compte en fait, l'autocorrélation du signal local en IRM, de pouvoir en fait, détecter statistiquement, de manière significative statistiquement, en fait, ces différences. Et donc le domaine de la vision par ordinateur nous a fourni dans les dernières années en fait, une technique appelée méthode a contrario, en fait, qui consiste à calculer les probabilités basées région. Ce qu'on nous pourrait assimiler en fait à des statistiques localement multivariées. Donc, comment est-ce que ça fonctionne? Très schématiquement, dans une première étape, on définit le modèle de base. Ça, je l'ai décrit tout de suite, tout à l'heure plutôt. Ensuite, sur ce modèle de base, on va mesurer chez un patient, mais par exemple, le débit sanguin local et avoir une probabilité locale en fait en comparaison à ce groupe contrôle. Donc, cette probabilité de base, on peut même l'asseoir par rapport à une p-value, par exemple, pour avoir une cartographie statistiquement significative, ou on peut simplement garder la carte de score en Z. Donc, cette carte de score, on va venir renseigner des probabilités plutôt basées à une échelle régionale. On va définir des régions d'intérêt, par exemple des ensembles de sphères locales. Et ces ensembles de sphères, en fait, vont nous permettre en fait, de pouvoir calculer ce qu'on va appeler des événements rares, le nombre d'événements rares, liée en fait à un certain nombre, à un ou plusieurs seuils statistiques préalablement établis. Et puis ensuite, on va renseigner une loi de Bernoulli pour, avec ces événements rares et puis l'ensemble des événements rares calculés au sein d'une petite région d'intérêt, pour avoir une statistique, une probabilité basée région. Ensuite, il suffit simplement de seuiller cette probabilité basée région avec un seuil particulier pour faire une correction des comparaisons multiples, comme on le fait par exemple avec des approches de type bande Fermi ou FDR ou test de permutation dans les méthodes univariées. Donc comment est-ce que ça se comporte lorsqu'on applique cette technique-là en fait, sur des données d'imagerie chez des patients? Donc on a validé un petit peu cette procédure sur des tumeurs cérébrales pour lesquelles en fait, on avait accès à de l'imagerie de perfusion, comme l'a montré Stéphane tout à l'heure. Alors sur cette imagerie de perfusion, on voit surtout très bien, en fait, assez bien, les hyperperfusions. C'est un peu plus compliqué de délimiter les hypoperfusions. Puis souvent, on est obligé de demander à un neuroradiologue de faire ça parce qu'il est obligé de comparer en fait, un hémisphère par rapport à son hémisphère contralatéral pour faire ce travail. Alors, quand on fait l'analyse automatique quantitative par la SL et automatique par la méthode a contrario, des défauts de perfusion par rapport à un modèle normal, eh bien on a automatiquement, à ce moment-là, en fait, les zones délimitées en hyper- et en hypoperfusion qui sont tout à fait en phase avec ce que l'on peut déterminer en fait, avec des approches utilisant des agents de contraste. Et ça, on peut le faire sur une population, on l'a testé sur plus d'une vingtaine de sujets, avec des résultats tout à fait conformes avec des techniques de perfusion dynamique, par exemple. On peut regarder aussi qu'est-ce qui se passe dans le domaine de la démence. Alors, dans la démence sémantique, c'est un travail qu'on a fait avec Serge Béliard et Florence Prigent sur Rennes, où, en fait, la démence sémantique, c'est une forme dégénérative rare du lobe frontotemporal qui se traduit, en fait, par une perte du sens des mots et de certaines connaissances conceptuelles. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir différencier, parce que ce n'est pas nécessairement facile au démarrage, cette démence sémantique de la maladie d'Alzheimer. Et donc, pour ça, on peut avoir affaire à des techniques d'imagerie. Et en fait, on a pu donc mettre en évidence, à l'échelle d'un groupe, en fait, que la perfusion cérébrale était tout à fait conforme à ce qu'on pouvait observer en regardant le métabolisme du glucose dans le cerveau avec le FDG PET, avec une mise en évidence, par exemple, d'un hypométabolisme dans le lobe temporal antérieur et plus ou moins dans le lobe frontal antérieur, vers le lobe temporal aussi. Et ça, on peut constater, puisqu'on a aussi un détecteur à l'échelle de l'individu, qu'on est conforme sur le groupe, sur les différents patients de l'étude, en fait, à ce que l'on a pu observer en fait, sur la population de notre étude, avec quelques variabilités individuelles, mais les grandes tendances sont retrouvées aussi dans à l'échelle de l'individu. Donc on a vraiment affaire à un marqueur individuel dans ce cas-là. Une autre application, c'est plutôt dans le domaine de la psychiatrie, où l'idée ici, dans la psychiatrie, c'est de pouvoir quantifier en fait, le lien entre les dépressions chroniques résistantes et puis le métabolisme cérébral. Ça, c'est un travail que l'on a conduit avec une équipe de recherche en psychiatrie de Dominique Drapier sur Rennes, où l'idée, en fait, c'est de pouvoir... en fait, l'hypothèse sur ces dépressions résistantes, hein, c'est qu'à peu près 10 à 20% des cas en fait, de dépressifs en fait, sont résistants à tout traitement thérapeutique, que ce soit électromagnétique, sismographie, RTMS... ou pharmacologique. Et donc l'hypothèse, c'est qu'on a affaire à un état de dérégulation dynamique cortico-sous-corticale. Et on peut mettre en évidence, avec l'arterial spin labeling, une hyperperfusion de l'axe amygdalo-hippocampique droit chez les patients résistants, qui est tout à fait conforme à ce qu'on a pu observer justement aussi en imagerie PET sur un métabolisme du glucose, où l'amygdale est associée aussi en fait, à un taux de réponse faible aux électrochocs. Et on peut constater en fait, également, quand on regarde à l'échelle individuelle, exactement en fait, une conformité en fait, avec ce que l'on a vu à l'échelle du groupe. Ça veut dire une implication de l'axe amygdalo-hippocampique et dans une moindre mesure en fait, de la région singulaire. Ici, le résultat sur deux patients de notre cohorte. On a regardé également ce qui se passait dans d'autres formes des formes de dépression qui sont en présence d'apathie, par exemple, où là encore, on peut mettre en évidence en fait, une hyperperfusion des régions de l'hippocampe droit et du cingulaire gauche. Là encore, c'est tout à fait conforme avec les schémas classiques de la dépression. Et quand on regarde ce marqueur à l'échelle individuelle, là encore, on trouve une forte conformité en fait, de l'implication des boucles limbiques et paralimbiques. Et donc, Pour conclure, ces biomarqueurs d'imagerie, en fait, eh bien, servent, on a vu que ça pouvait servir à détecter les maladies, à prédire le degré de risque. Ça a été vu sur l'usage des USPO et des lésions inflammatoires dans la sclérose en plaques. Ça permet de classifier la gravité, l'extension de la maladie et de prédire son évolution. Et donc, ce qu'on veut pouvoir faire dans l'avenir, en fait, c'est d'utiliser ces marqueurs pour évaluer la réponse au traitement. Et donc, c'est de transférer les marqueurs qu'on découvre aujourd'hui en recherche clinique vers le patient. Et donc, un instrument pour faire ça, là, simplement comme perspective, en fait, je voudrais décrire un projet un petit peu d'avenir qui place cette dynamique, en fait, qui place l'imagerie et les marqueurs d'imagerie, en fait, au cœur d'un processus aussi de traitement à travers, en fait, l'observation, en fait, de ce marqueur d'imagerie en temps réel par le signal et par l'image sous IRM et de pouvoir, en fait, renseigner le patient en temps réel à travers une boucle de ce qu'on appelle de neurofeedback en utilisant les techniques, en fait, d'interface cerveau-ordinateur qui commencent à émerger aujourd'hui et de pouvoir, en fait, faire interagir le patient dans cette boucle de production du biomarqueur dans un contexte de réhabilitation fonctionnelle ou de réhabilitation dans le contexte de la psychiatrie, par exemple. Voilà. Donc, je voudrais d'abord remercier mes différents collaborateurs qui m'ont aidé à préparer ce travail. Et puis, je remercie Nicolas pour m'avoir invité.